Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons passer à la lecture des textes en vue de la prédication. Donc le texte principal se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, et c'est les versets 13 à 18. L'épître de Jacques, chapitre 3, depuis le verset 13 jusqu'au verset 18. Jacques, chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Et puis on va lire trois passages complémentaires. Le premier se trouve un peu en arrière dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1. Et ce sera les versets 17 à 25. 1 Corinthiens chapitre 1, depuis le verset 17 jusqu'à 25. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et puis deux passages complémentaires encore, donc le premier dans Job, au chapitre 28, et le verset 28 également, Job, chapitre 28, verset 28, qui est donc le dernier verset du chapitre. Job, chapitre 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Et on va sauter par-dessus les psaumes pour aller dans Proverbes, au chapitre 9, le verset 10. Proverbes, chapitre 9, le verset 10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence.
Vous avez sûrement déjà vu un drone. Ça vous dit quelque chose, un drone? Un drone non programmable, qui n'est plus connecté à la commande, ne peut plus être dirigé. Il va n'importe où et il va se crasher. Une personne qui n'est pas connectée à la commande du Saint-Esprit ne peut plus être dirigée dans la compréhension des Écritures. Il va n'importe où et il va se crasher. Et nous demandons à Dieu justement d'être notre commande, que l'Esprit soit la commande de nos esprits ce matin pour saisir et comprendre sa parole. Nous nous retrouvons dans l'épître de Jacques pour continuer à nous imprégner de ce que le frère de Jésus nous a écrit. Nous avons remarqué que Jacques écrit comme nous pourrions avoir une discussion. Hein, si on lit un peu ce texte, on se rend compte qu'il va un peu par rebond, hein, par connexion de pensée. Il parle de quelque chose, après, ah oui, il y a encore quelque chose qu'on peut rajouter, après encore quelque chose d'autre, etc. Et c'est ainsi qu'il avance dans son développement, par association d'idées. Et dans ce livre, la foi tient une place importante. Elle tient une place importante, mais pas une foi théorique, une foi qui se manifeste dans la pratique, dans la réalité. Il dit par exemple, on a déjà vu ça ensemble, hein, « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ?» Ou encore, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. » Et nous avons vu la dernière fois que la foi agit aussi dans l'utilisation de notre langue. Ça, on avait parlé la dernière fois, en parlant des paroles hein, que l'on peut prononcer. Et Jacques, en parlant de ça, ben, comme j'ai dit, association de pensée, ben, il pense à la sagesse, qui sera un outil utile pour les paroles aussi. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de la sagesse. Et nous allons méditer cela en trois temps. Le premier temps, je vous parlerai de la sagesse de la foi qui se voit. Ce sera le verset 13 particulièrement. Donc, c'est vos Bibles, gardez-les ouvertes dans Jacques 3. Donc, verset 13, ça sera la sagesse de la foi se voit. Ensuite, nous verrons verset 14 à 16, la sagesse d'en bas mène au désordre. Et puis ensuite, nous terminerons par les versets 17 et 18, la sagesse d'en haut mène à la paix. Nous commençons par ce premier verset, le verset 13, qui nous parle de la sagesse de la foi qui se voit. Relisons le verset pour l'avoir en tête. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Personne ne lève la main. Enfin, lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Quelqu'un a dit en lisant ce texte, notre sagesse se mesure à la qualité de nos relations. Notre sagesse se mesure à la qualité de nos relations. Et Jacques commence par une question hein, que je nous pose aussi ce matin. Qui parmi nous se considère sage et intelligent ? Peut-être que dans la théorie, certains oserait dire qu'ils ne se considèrent pas comme sages et intelligents. Mais dans la pratique, combien de fois demandez-vous conseil à quelqu'un avant de prendre une décision ? Lorsque vous allez dans un magasin, par exemple, est-ce que vous demandez chaque fois conseil avant d'acheter quelque chose ? Pas besoin des autres. Donc, nous considérons généralement que nous sommes sages et intelligents. Il faut savoir que les Grecs aimaient le concept de la sagesse, mais ils l'ont dissocié du comportement. Pour eux, la sagesse, en fait, était une capacité à raisonner, une capacité à expliquer de manière brillante, et une capacité d'avoir une puissante réflexion. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 1, au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, si les Grecs pensaient que la sagesse était avoir une tête pleine, la parole de Dieu, et particulièrement le livre des sagesses, indique que ce n'est pas une tête pleine qui est la marque de la sagesse, mais une vie pleine de comportements adéquats. Donc les Grecs, eux, pensaient que c'était une tête pleine qui était la sagesse, mais la parole de Dieu nous dit que c'est une vie pleine de comportements adéquats.
Et le livre des Proverbes nous présente un contraste saisissant hein, entre l'insensé et le sage. Alors je vais un petit peu vous faire le tableau de l'insensé selon les Proverbes. Tout d'abord, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. 1-7. Et ils créent du chagrin à leur mère. 10-1. Ils deviennent des esclaves des sages. Ce sont leurs propos qui les trahissent et les ruinent. Leurs actes sont infamie, ruse, arrogance et emportement. Et leur fréquentation les perdent. Ils n'écoutent pas les conseils, car ils pensent ne pas en avoir besoin. Leur voix est droite à leurs yeux. Ils parlent à tort et à travers. Ne savent pas être fermes, gaspillent leur argent, méprisent tout conseil et étalent tous leurs sentiments. Donc si quelqu'un veut toutes les références, peut les lui donner, ou bien il peut les chercher dans les Proverbes. Mais voilà une description de l'insensé, qui est donc l'inverse du sage. Mais les Proverbes décrivent aussi le sage. Voici ce qu'ils disent. Les sages, par contre, font la joie de leur père et acceptent les commandements. Ils accumulent la connaissance et la recherche de la sagesse est comme un jeu, un plaisir, au point qu'ils écoutent les conseils, s'associent aux sages et donnent à leur tour des conseils éclairés et utiles. Ils craignent le mal, réfléchissent à leur manière de vivre, génèrent des richesses. Même les insensés reconnaissent le bien qui est en eux et ils sont réservés dans leurs sentiments. Quel contraste! Quel contraste! Et vous savez quoi? Il y a une personne qui est la sagesse même. Jésus est la sagesse même. Il l'a parfaitement vécu. Et cela a deux effets sur nous. Jésus est la sagesse même, il l'a parfaitement vécu, et ça a deux effets sur nous. Le premier, c'est que cette perfection nous est donnée. En Christ, cette perfection, cette sagesse nous est donnée. Dieu nous voit par Christ. Et le deuxième effet, c'est qu'il vit en nous. Et donc son exemple nous permet de savoir ce que nous sommes appelés à vivre. Donc le premier élément, c'est que cette perfection nous est donnée. C'est vrai que là-dedans, j'inclus aussi, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure aussi, qu'il a payé pour nos imperfections, hein, si ça fait partie. Et puis le deuxième, c'est qu'il vit en nous, et donc son exemple nous permet de savoir ce que nous sommes appelés à vivre. En fait, Jacques met chaque chrétien au défi. La première question, là, lequel d'entre vous est sage? Qu'il montre sa sagesse. Et comment? Il a deux éléments qui soulignent ici, par sa bonne conduite. Alors ça, c'est l'idée d'un style de vie, en fait, d'une manière de marcher dans la vie. On remarque le sage à sa manière de marcher, qui ne ressemble pas à la déambulation d'un homme ivre qui ne marche pas droit et démontre qu'il est contrôlé par l'alcool. Un homme sage est contrôlé par la sagesse d'en haut. Et deuxièmement, par ses œuvres empreintes de douceur. Vous savez, les Grecs considéraient la douceur ou être gentil comme une faiblesse. Ça arrive encore aujourd'hui, hein, lui le gentil, c'est une faiblesse. Mais en fait, Jésus l'a élevé en vertu de base pour un chrétien. Il est dit que Jésus est doux et humble de cœur. La douceur ne vient pas du fait de ne pas avoir de courage ou être passif. C'est pas ça. Mais c'est la confiance en Dieu, la foi qui libère de l'anxiété et de la promotion personnelle. C'est ça, cette douceur, humilité. Jacques, pour que nous comprenions bien, va parler par contraste. Et il utilise le terme « mais ». Donc là, on a fait cette réflexion hein, que la sagesse se vit. Puis ensuite, il dit « mais » au verset 14. Donc on lit les versets 14 à 16 pour passer au deuxième point qui parlera justement de la sagesse d'en bas. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. » Vous vous souvenez, j'ai dit tout au début, notre sagesse se mesure à la qualité de notre relation. Et Jacques va ici ouvrir la porte du cœur, c'est ce qu'il va faire, il va ouvrir la porte là du cœur, pour nous aider à voir quelle est la sagesse qui agit. C'est en ouvrant la porte du cœur que l'on voit quelle est la sagesse qui agit. Vous savez, une personne peut avoir de grands diplômes, même être en possession d'un prix Nobel, si lorsque la porte de son cœur est ouverte et nous y découvrons de la jalousie et un zèle amer, de la rivalité, cet homme possède une sagesse terrestre, charnelle, démoniaque. Hein, comme je dis, une personne peut avoir des grands diplômes, même être prix Nobel. Si lorsque la porte de son cœur est ouverte et nous y découvrons la jalousie ou un zèle amer et de la rivalité, cet homme possède une sagesse terrestre, charnelle et démoniaque. Alors le terme terrestre ici nous permet de comprendre que ce n'est pas céleste, hein, il y a une opposition. Et dans le ciel, en fait, où il n'y a aucune rivalité, aucune jalousie, le Père, le Fils et l'Esprit sont un et vivent leur unité en parfaite unanimité. Le terme charnel, on a parlé de la sagesse terrestre, le terme charnel peut aussi se traduire par sensuel. Charnel, sensuel, ça c'est une question de traduction. Et le même terme, et c'est là que ça va nous aider, est utilisé dans 1 Corinthiens 2,14, où il est dit « Mais l'homme naturel, il est traduit par naturel, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc le terme charnel ici, c'est le même terme que dans 1 Corinthiens 2,14, le terme naturel. Et le terme démoniaque indique en fait le royaume du mal, d'où vient cette sagesse qui remplit le cœur de jalousie, de zèle amer et de rivalité. Donc c'est très fort ces termes qui sont utilisés ici. Mais ils sont là par comparaison, par opposition, pour nous faire tourner les regards vers la sagesse d'en haut. Mais peut-être encore quelques exemples que l'on trouve dans la Bible de cette sagesse charnelle, terrestre, démoniaque. Dans le livre des Nombres, nous trouvons par exemple Corée et deux amis qui initient la révolte contre Moïse et Aaron. Je vous lis dans Nombre 16, verset 2. Corée, avec Dathan et Abiram, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse entendit cela, il tomba face contre terre. Il parla à Corée, à toute sa troupe en disant « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Et le lendemain, la réponse de Dieu fut précise et sans appel. La terre s'ouvrit et engloutit ceux qui s'étaient révoltés. La sagesse terrestre. Ou encore dans le livre de Samuel, nous voyons Absalom, le fils de David, qui était rempli d'un zèle amer. Il voulait être roi à la place de son père. Et il sème la rivalité pendant des années, il semblerait même 40 ans. Donc dans 2 Samuel 15, voici ce qu'il a dit. Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte. Et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu, « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait un procès ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour obtenir un jugement, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et des années plus tard, en continuant à faire ça, il organise une révolte et une grande partie du peuple se lève en faveur d'Absalom. Un zèle amer. Ça amène la discorde, ça amène... On voit ce texte, c'est très fort, hein, ce que cela amène, le désordre des pratiques mauvaises. Et nous alors, lorsqu'un chrétien se met à jalouser une personne, qu'il veut sa place pour cette seule raison, il est animé d'une jalousie amère. Repentons-nous de cela. Quand un chrétien se chauffe au feu des ragots et attise les flammes par son accord, causant des incendies dans l'église, il est animé d'un zèle amer. Quand dans une réunion ou une discussion, il y a une opposition systématique à ce qui est dit, il y a un zèle amer, une rivalité. Il ne faut pas que cette sagesse-là soit tolérée dans une église ou dans un foyer, parce que les conséquences sont graves, c'est dit ce texte. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Le désordre décrit en fait un état d'instabilité, de confusion, d'agitation qui produit des conflits. Et les pratiques mauvaises décrivent en fait des actions sans valeur, sans fondement, inutiles et parfois même corrompues. À ce stade, rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais eu de jalousie ou de rivalité dans le cœur. Jamais. Et parce qu'il était parfait, il a pu payer pour nos jalousies et nos rivalités. Il a porté le poids de cette grande dette qu'il remet à celui qui se tourne vers lui et qui vit par son esprit. Et son esprit en nous nous poussera à nous détourner, en fait, de cette jalousie et de ces rivalités. Nous allons tourner maintenant vers la meilleure sagesse. La sagesse a 9 caractéristiques dans le verset 17 qui seront l'objet de notre réflexion. Alors, est-ce que vous les trouverez pendant que je vous relis le texte? 9 caractéristiques. Alors, ben, soyez attentifs, regardez vos Bibles. Verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Prenons quelques instants pour réfléchir à ces 9 caractéristiques. Alors voyez-vous la première? Pardon? Oui, il est trop pressé, lui. C'est bien. Parce que généralement, on va vers la pureté, parce qu'elle est d'abord pure. Puis je dis, oui, c'est la première caractéristique de l'application. C'est vrai, c'est juste. Mais la première caractéristique, c'est que cette sagesse a une origine. La première caractéristique, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Au début de sa lettre, hein, Jacques nous disait « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout, vous avez entendu, hein, tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qui est bon provient d'une source divine et céleste. » N'en déplaise à notre orgueil qui se révolte et qui dit « N'y aurait-il pas quelque chose de bon en moi ?» Je me rappelle, toujours une discussion que j'avais eue avec mon chef à l'époque, où je travaillais dans la télécom. On rentrait en voiture et puis il me dit un jour comme ça, « Mais ouais, chez les chrétiens, ce que j'aime pas, c'est que tout ce qui est bon vient de Dieu et tout ce qui n'est pas bon vient de nous. » Ça m'avait marqué. Puis sur un moment, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça, je n'avais pas trop quoi répondre. Mais en fait, c'est vrai. Et c'est perturbant. Parce qu'on se dit, mais non, on aimerait quand même dire, mais il y a quand même quelque chose de bon. Non, tout a été touché par la chute. Et si je peux faire des bonnes choses, c'est toujours une grâce. Et pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont sous ce qu'on appelle la grâce générale. Donc c'est pour ça qu'il y a, heureusement que les gens, même qui ne sont pas dans le Seigneur, font aussi du bien. Mais ça vient quand même d'en haut. J'aimerais nous rappeler que Même Jésus, homme, a clairement dit que c'était la volonté de son Père qu'il accomplissait. On pourrait dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait de bien, venait d'en haut. Tout ce qui est bon dans ce monde vient de Dieu et toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Retirer une gloire personnelle pour une réussite, c'est oublier 1 Corinthiens 4:7.
Connaissez 1 Corinthiens 4:7.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Tout ce que nous avons et ce que nous pouvons faire, nous l'avons reçu. Vous ne pouvez pas produire un seul battement de cœur par vous-même. C'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas vous donner la vie. C'est un don de Dieu, enfin, etc. De même, la sagesse qui aboutira à la paix vient d'en haut. Elle vient de Dieu. D'ailleurs, tous ceux qui ont un petit peu étudié la Bible ou qui ont été attentifs aux lectures ce matin avant la prédication savent que la source, le commencement, le fondement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On le sait, hein, comme ça, intellectuellement. Oui, mais ça a une application. Je vous relis les trois passages, hein, Job 28, 28. « Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Ou psaume 111, verset 10. « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. » Ou encore proverbe 9, verset 10. « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. » Donc ça, c'est les écrits de sagesse dans la parole qui tous nous dirigent en fait vers cette crainte de l'Éternel. Donc comment vivre les 9 caractéristiques que nous allons voir ? Comment savoir ce qu'ils signifient ? C'est en comprenant ce qu'ils signifient pour Dieu, notre référence. C'est ça en fait qui est important. C'est ce que ça signifie pour lui. Vous savez, notre référence, ce n'est pas Google ou DuckDuckGo, enfin voilà, après, ou un autre moteur de recherche, ou même une autre intelligence artificielle. Non, notre référence, c'est Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Sa parole, exactement. Sa parole qui est fiable, qui est vraie. Si nous savons ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est pas parce qu'on est mieux, pas parce qu'on est meilleur, pas du tout. Mais c'est parce que nous avons la parole de Dieu qui nous indique, par exemple, que la vie que personne ne peut créer en dehors de Dieu ne doit pas être touchée. C'est une vérité, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Ou encore qu'il existe une vérité et un mensonge, et des mensonges. Il y a des vérités et des mensonges. Et ce n'est pas moi qui décide qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est le mensonge. C'est sa parole. Et il faut combattre le mensonge et mettre en valeur la vérité. Et en fait, tout ce qui concerne la sagesse... Puis la sagesse, c'est quoi ? C'est la mise en pratique des bonnes connaissances dans un bon contexte, avec de bonnes attitudes, dans un bon but. Waouh ! Je vais le redire parce que je me suis un peu croché là. C'est quoi la sagesse ? La sagesse, c'est la mise en pratique de bonnes connaissances dans un bon contexte, avec une bonne attitude, dans un bon but, selon Dieu. Alors j'espère qu'on a un tout petit peu mieux saisi que la sagesse vient d'en haut, ce qui signifie que nous allons exercer notre foi pour vivre la sagesse. On revient à la foi, hein. Je veux dire dans Jacques, on va souvent y revenir. Et puis en fait, la sagesse d'en haut, c'est une sagesse vécue dans la foi. Et la manière de vivre cette sagesse démontrera votre foi. Donc désormais, quand je vais parler de la sagesse, je vais parler de la sagesse vécue dans la foi. Comme ça, ça nous aide à retenir cette notion. Si nous voulons la sagesse, ne la cherchons pas en nous-mêmes, mais suivons le conseil de Jacques. Jacques, il nous a déjà donné un conseil sur la sagesse. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ça dans le chapitre 1, au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il rentre à la maison. Mais non, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Donc là, vous pouvez reprendre la prédication qu'on avait eue sur ce sujet-là, je ne vais pas la développer maintenant. Mais on va la demander, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas en nous, elle est en dehors de nous, mais elle nous est donnée et on peut la vivre grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous. On va observer maintenant ces quelques caractéristiques pour nous stimuler ensemble. Hein. Donc la deuxième caractéristique, qui est la première caractéristique pratique, hein, mais la deuxième dans le texte ici, puisque la première c'est qu'elle était d'en haut, c'est la pureté. C'est quoi être pur ? Voilà, c'est le thème de toute une prédication. Donc je vais faire très court. Être pur, c'est être libre de toute contamination, de toute souillure. On pourrait dire, c'est ça. Le seul moyen de vivre la pureté est de vivre sous la grâce, progressant dans la sanctification. Donc ça, c'est la sagesse vécue dans la foi qui est pure. On recherche la pureté. Deuxièmement, la sagesse vécue dans la foi, elle a l'amour de la paix. Ou elle est pacifique, si vous voulez. Un pacifique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui recherche la paix dans les relations, la réconciliation, selon les artisans de paix. Je vous encourage à revoir les enseignements sur l'artisan de paix, qui sont des clés pour nos vies relationnelles. Quatrième caractéristique, la sagesse dans la foi, en fait, c'est la modération. Alors bon, le terme original, je vous fais grâce du terme, n'est pas facile à traduire. D'autres proposent ici la douceur, ou elle a une connotation de bon sens. Hein, et voilà ce que dit un commentateur pour comprendre un peu ce que veut dire ce terme. Une telle personne pourra subir toutes sortes de mauvais traitements et de difficultés avec une attitude de douce humilité, de délicatesse et de patience, sans aucune velléité de vengeance ou de haine.
Vous voyez, c'est assez large quand même la compréhension de ce terme.
Donc pensez à ceux qui traduisent la Bible, c'est pas facile. Mais c'est vraiment cette notion, hein, que, alors là il est parlé de modération, hein, mais c'est vraiment une douceur avec un bon sens, voilà, si vous voulez. Voilà ce qui caractérise la sagesse d'en haut. Une cinquième caractéristique, c'est qu'elle est conciliante. Hein, la Colombe utilise le terme conciliante. En fait, vous pourriez dire c'est la caractéristique d'avoir la porte de son cœur ouverte pour les remarques qui nous aident à progresser. C'est ça que veut dire ce terme, en fait, hein, cette notion ici. D'être prêt à être enseigné, corrigé pour se soumettre, et dans le cadre chrétien, donc d'être conforme à la loi d'en haut, c'est, voilà, on peut dire c'est la porte du cœur ouverte pour les remarques et pour nous aider à progresser. C'est la sagesse d'en haut. Sixième caractéristique, la sagesse dans la foi, c'est la miséricorde. Alors, dans l'enseignement actuel de l'artisan de paix, je parle de miséricorde CPP.
C'est quoi ça ?
Miséricorde CPP. C'est qu'en fait, dans le cadre de la miséricorde, il y a trois ingrédients principaux pour bien comprendre la miséricorde. Eh bien, c'est les CPP. Voilà.
Non, je vous donne la clé quand même. Hein.
Le C, c'est compassion. Le premier P, c'est pardon. Et le deuxième P, c'est patience. Pour bien comprendre la miséricorde, il faut comprendre que la miséricorde contient la compassion, le pardon et la patience. Ça, on saisit mieux ce que cela signifie. Et c'est une caractéristique de la foi d'en haut, ou de la sagesse, pardon, d'en haut. La septième caractéristique, vous avez vu la septième ? Si vous suivez dans le texte, vous commencez à voir que voilà, ça avance. Hein. C'est qu'elle produit du fruit. Si dans nos vies, il n'y a pas de fruit, courons demander la sagesse. Il y aura du fruit. Paul écrira plus tard le livre des Galates qui parle du fruit de l'esprit, par exemple, qui d'ailleurs, c'est intéressant, quand on lit le fruit de l'esprit, ça ressemble aux différentes caractéristiques de la sagesse d'en haut. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, enfin, pour que vous ayez un petit peu plus cette notion, je vous lis le fruit de l'esprit, comme ça vous voyez un petit peu les liens avec ce qu'on voit aujourd'hui. Le fruit de l'esprit, il est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et les bons fruits ne sont pas tous décrits dans Galates 5:22. On peut encore voir d'autres éléments, évidemment. Et c'est ce que nous désirons vivre et avoir afin que ceux qui sont autour de nous puissent faire une bonne cueillette. Huitième élément, caractéristique de la sagesse de la foi qui est sans partialité, sans partialité. En fait, dans le Nouveau Testament, de nouveau, là, les traducteurs, dans ce texte, c'est pas facile. C'est le seul endroit qu'on a ce mot dans tout le Nouveau Testament. Donc, souvent, quand on a dans plusieurs endroits, on va regarder pour comprendre exactement ce que ça signifie. Là, c'est un peu plus difficile. Donc, des fois, il faut aller un peu voir aussi à l'extérieur. Mais ici, cet adjectif donc, désigne une personne cohérente, persévérante, tout entière dévouée à ses engagements et conviction qui n'opère pas de discrimination injuste pour les gens. En fait, ça fait aussi référence à ce que Jacques a déjà dit précédemment quand il disait si un riche ou un pauvre entre dans l'Église, qu'il n'y ait pas de différence, enfin, etc. Donc ça fait partie ici de cette notion de sans partialité. Et la neuvième caractéristique, c'est qu'elle est sans hypocrisie. La sagesse dans la foi ou la sagesse d'en haut, elle est sans hypocrisie. Sincère, sans masque, intègre, sincère. L'hypocrisie, d'ailleurs, est l'un des péchés les plus condamnés par Jésus. Vous saviez ça? Si jamais, juste pour un bel échantillon, vous pouvez aller lire Matthieu 23. Vous verrez. Vous lisez Matthieu 23, je pense que vous serez déjà convaincu. C'est un chapitre qui nous pousse à aller à la croix hein, et nous repentir, c'est vrai. Alors, comme la bonne nourriture va permettre à un corps de bien fonctionner, de même, la sagesse avec de bonnes caractéristiques va bien fonctionner, avec ses 9 caractéristiques. Et il est intéressant de noter, on a déjà fait le lien avec le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, mais c'est intéressant de voir que l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13 reprend aussi des éléments qui sont très semblables. Alors si ça ne vous a pas frappé, je vais simplement vous le lire, comme ça vous allez faire les liens. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Très proche de la sagesse d'en haut. En fait, c'est un tout, tout est lié. Cette notion du fruit de l'esprit, la sagesse d'en haut et l'amour que nous sommes appelés à vivre en tant que croyants. Et nous comprenons maintenant, j'espère un peu plus, que ben, quand on voit tout ça, on se dit « Waouh, le programme, c'est pas facile. Je veux vivre ça, oui. » Et ça, c'est quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons ce désir. Nous le voulons, nous le désirons. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, ben, nous nous rendons compte que ben, la perfection dans ces choses-là, elle est encore assez loin, disons. « Seigneur, aide-moi. » Je viens vers Dieu, lui demander qu'il me donne sa grâce et sa force, qu'il me donne. Elle vient d'en haut, c'est pas pour rien, c'est pour que nous allions vers lui. Et nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Si elle vient d'en haut, elle nous a été révélée pour que nous puissions vivre cette sagesse qui est dénuée de toute jalousie, de rivalité et qui ne pourra produire que la paix en fait. C'est la raison pour laquelle les artisans de paix sont remplis de cette sagesse. Ou pour le dire autrement, ceux qui sont remplis de cette sagesse sont des artisans de paix. Bon, on arrive gentiment à la conclusion. Qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? Dans un premier temps, nous avons vu que la sagesse de la foi se voit. Il dit, il pose la question, hein, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre? Ça se voit. La bonne conduite et les œuvres empreintes de douceur et de sagesse devraient faire partie de tout croyant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, le parfait, sage et intelligent, vit en lui. Il vit en nous, en celui qui est en Christ. Donc on doit voir ces choses, elles vont se manifester. Ensuite, nous avons parlé de la sagesse d'en bas. Alors, j'ai pas eu le temps de nous aider à comprendre que le livre de l'Ecclésiaste, que je n'ai encore pas nommé dans les livres de sagesse, en fait, le livre de l'Ecclésiaste nous parle justement beaucoup de la sagesse terrestre. Et en fait, nous permet de voir que cette sagesse d'en bas, centrée sur soi, est déprimante. Mais je ne peux pas prendre ce temps avec vous maintenant, hein, mais Jacques a ouvert la porte du cœur pour nous montrer la jalousie et la rivalité qui sont à la base de la sagesse naturelle. Et nous avons terminé par la sagesse d'en haut. Donc maintenant, Jacques 3:17, on va commencer à le prendre avec nous, à même l'apprendre peut-être. Pourquoi pas ? La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Et rappelons-nous que Jésus a parfaitement vécu cette sagesse d'en haut et que cela a deux conséquences pour celui qui croit. N'ayant pas besoin de payer pour ses péchés, étant parfait, il a payé pour nous afin que nous soyons déchargés. Et c'est par la repentance, qui est un regret de sa faute, un changement de direction, que nous saisissons ce cadeau de délivrance de ne pas avoir vécu toujours la sagesse d'en haut, d'avoir malheureusement eu des jalousies et des rivalités dans notre cœur. Et parfois, ça peut encore arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? On reste assis, puis on attend que ça passe. Non ! Nous allons vers Christ, nous nous repentons et il nous libère. Et deuxièmement, ayant vécu parfaitement, il nous revêt de sa perfection. Nous n'avons plus la pression d'être parfait pour être accepté par lui. Non, nous avons la motivation à vivre d'une manière qui ressemble à Christ parce qu'il nous a sauvés. Et nous savons qu'il nous voit parfaits en Christ. Donc il n'y a pas de pression, mais il y a une motivation à vivre. Et en plus, le fait que nous vivions ces choses-là sera une preuve de l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ta parole. C'est vrai que Jacques nous pose une question. Qui est sage et intelligent ? Et Seigneur, nous, lorsque nous nous plaçons devant toi, nous nous rendons compte que nous ne le sommes pas. Mais lorsque nous voyons notre vie, notre manière de vivre, nous vivons très, très, très souvent comme si nous l'étions et nous le pensions. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à concilier ce que nous croyons théologiquement de ce que nous vivons pratiquement, de manière à pouvoir affirmer que nous voulons vivre de manière sage et intelligente selon toi, grâce à l'œuvre de Christ qui agit en nous par son esprit. Et Seigneur, c'est un cadeau tellement grand et nous voulons te dire merci. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui pensent peut-être à des choses dans leur vie où ils se rendent compte qu'ils ont agi comme des insensés. Seigneur, nous avons bien des choses dans notre vie où nous rendons compte, mais là j'ai agi comme un insensé. On dira peut-être pas ces mots parce qu'on a un peu peur des mots qui sont forts. Mais c'est la réalité. Et Seigneur, on veut te demander pardon, te prier de nous purifier, de nous donner cette grâce et cette joie de venir constamment à toi. Jésus n'a pas dit qu'il a de temps en temps vécu ta volonté. Non, constamment. Il n'y a pas de honte à être complètement dépendant. En fait, c'est plutôt la joie et la liberté d'être complètement dépendant de toi. Et permets, Seigneur, que nous puissions le comprendre aussi particulièrement en ce qui concerne la sagesse, la manière de vivre qui t'honore. Et j'aimerais, Seigneur, te remercier pour tous ceux qui te connaissent aussi, que chacun puisse être encouragé, puisse être fortifié, que nous cherchions, Seigneur, non pas à nous montrer sages aux yeux des autres, mais que nous cherchions, Seigneur, à venir vers toi, saisir ta sagesse pour la vivre et la transmettre comme un cadeau que nous avons reçu et que nous pouvons donner. Ô Seigneur, que nous puissions être des arbres fruitiers qui portent beaucoup de fruits, qui puissent être utiles à beaucoup de personnes autour de nous, et que Seigneur, tu puisses agir dans les cœurs de manière à ce que ceux qui sont autour de nous puissent aussi devenir des arbres fruitiers, et que nous devions, Seigneur, des vergers immenses à ta gloire. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.